Alors, bienvenue sur Lumpen Station. Nous sommes toujours en compagnie de Roberto Biolzi. Nous sommes là pour enregistrer le sixième épisode de Suisse, une philogenèse. On était arrivé au dernier épisode, on va dire, à l'apogée, quelque part, de l'épopée des Suisses, surtout sur le plan militaire. Et voilà, on avait promis à nos auditeurs et nos auditrices qu'on serait un peu rentré dans le vif du sujet, car cette population du centre de la Suisse montagnarde, commence à se dire que cette puissance militaire, elle peut l'utiliser aussi à des visées un peu plus téléguidées, j'ai envie de dire.
Téléguidées.
Des ambitions, des ambitions.
Bonjour.
Mais tu vas tout de suite me corriger, j'imagine.
Non. Moi, j'aime bien tes. J'aime beaucoup ta manière de. Tes termes, un peu comme ça. Je pense que c'est juste plutôt pour essayer de comprendre plus exactement qu'est-ce que. Téléguidé, j'en sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on va peut-être voir la page la plus sanglante de cette. Épopée militaire des Suisses, et peut-être certainement la plus sanglante, et peut-être aussi un peu la plus internationale. Ce qu'on peut dire, c'est que nos montagnards descendent un peu de leur montagne, effectivement, pour mener une politique, peut-être plus conscients de leur puissance. Ils descendent effectivement de la montagne plutôt en direction du sud, plutôt en direction de nos terres, à l'époque en direction du duché de Milan. Je dis nos terres parce qu'on est les deux Tessinois, on est bien d'accord.
Et dans cet épisode, on deviendra suisse quelque part.
Alors ça c'est bien dit, ouais. Dans cet épisode, les Tessinois deviendront suisses. Pour être plus précis, il y a une partie du Tessin qui est déjà depuis, on va dire, le 15e siècle sous l'autorité d'Uri, donc dans des cantons primitifs, en tout cas, les cantons de l'ancien, un des premiers, on va dire, cantons du noyau de l'ancienne confédération. Qui est notamment la Léventine.
Qui est une Léventine, sorte de colonie, je ne sais pas si c'est un terme adapté, un peu anachronique peut-être, mais dans le sens, c'est un peu une terre qui est
une contrôlée. Colonie, parce que tu trouves que les Léventins ressemblent plus à des Ouranais qu'à des Tessinois.
Non, dans le sens, un territoire qui est déconnecté, on va dire, de territoire d'origine et qui est sous contrôle
si.
Qui n'a pas si. Les mêmes droits, voilà. J'ai dit, c'est peut-être un terme anachronique, mais il y a un peu une relation, je ne sais pas, justement, c'est un terme.
Non, en fait, je ne sais pas, une colonie impliquerait le fait qu'il y aurait beaucoup de Suisses centraux qui se sont déplacés et ont colonisé véritablement le nord du Tessin. Franchement, je pourrais pas dire, mais en tout cas, c'est sûr que la Léventine, même avant les guerres d'Italie, qui va être un peu le sujet, je pense, de la séance d'aujourd'hui. Il était déjà, en tout cas, au XVe siècle, donc avant les guerres de Bourgogne, dont on a parlé la dernière fois, déjà sous le contrôle des cantons, les Gotthardis, on appelle ça, Urischwitz-Unterwald et Zurich, Zug, Glaris, un peu tous ces... les cantons qui gravitent autour de la Suisse centrale primitive.
Et on a vu que le mercenariat suisse, donc des Gotthardis, mais aussi d'autres régions, va aller jusqu'en Espagne, mais là, c'est un peu une entrée où il y a, comment dire, ça se catalyse un peu tout autour de l'Italie, mais aussi au niveau international, dans le sens qu'il y a plusieurs forces qui tentent de percer le sud, et donc la Méditerranée italienne, Et les Suisses vont aussi participer à ces campagnes, principalement comme des mercenaires.
Oui, alors peut-être dire deux mots, ou je ne sais pas si tu es d'accord qu'on rentre déjà en plus un peu dans le contexte de ce grand conflit
Bah,
européen.
peut-être de dire pourquoi ça se passe en Italie plutôt qu'ailleurs.
Mais tout se passe en Italie en fait en raison des visées, on va dire, expansionnistes du Royaume de France. Le Royaume de France, à la différence de la Suisse, peut être déjà considéré à cette époque comme un vrai État, une grande monarchie unifiée, structurée, centralisée, surtout depuis la longue guerre contre l'Angleterre, la guerre de Cent Ans. Et Charles VIII, lointain cousin de Louis d'Anjou, donc c'était une maison noble qui détenait le pouvoir dans le royaume de Naples, donc en gros l'Italie du Sud, lance une expédition militaire conséquente à la fin du XVe siècle, donc en 1494, pour reprendre le royaume de Naples. Donc on peut vraiment la considérer comme une véritable invasion de la péninsule italienne. Alors, si la France et d'autres pays européens, comme par exemple l'Angleterre ou le Saint-Empire, sont effectivement déjà un peu des États-nations à la fin du Moyen Âge, en gros, pour simplifier, ecco, la Suisse ne l'est pas, et l'Italie l'est peut-être encore moins, dans le sens où l'Italie, on parle de l'Italie, pour se comprendre, la péninsule italienne, mais l'Italie, à la fin du Moyen Âge, à ce moment-là, est vraiment en état désuni.
C'est un état rempli d'états
C'est
parce
même pas,
que
voilà, justement, alors voilà,
géographiquement, c'est même pas,
c'est
l'Italie
même pas
n'existe
un
pas.
État. L'Italie n'existe pas. Au nord, il y a plusieurs principautés, villes-principautés, Venise, Milan, Florence, Gênes, les États pontificaux. Et au sud, il y a le royaume de Naples. Donc, voilà, effectivement, une série d'États en concurrence entre eux et donc, du coup, désunis. Et cette, on va dire, cette non-cohésion, cette rivalité même à l'intérieur de l'Italie, selon aussi les contemporains de l'époque, on peut en rappeler le principal, le fameux Machiavel, est à la base finalement de la faiblesse italienne à ce moment-là. Et après la première descente de Charles VIII en 1494, qui fait aussi, en gros, grâce aussi à l'aide des Suisses, l'Europe se rend compte de la faiblesse de l'Italie, à la fois de la faiblesse de l'Italie et à la fois de la richesse. On est en pleine Renaissance, l'Italie, dans la deuxième partie du Moyen Âge, est devenue, on va dire, des régions les plus riches d'Europe, grâce aussi à croisade, donc c'est quand même un pays stratégiquement, qui a toujours été extrêmement important. Beau, plein de culture, plus chaud, on va dire. L'Italie devient terre de conquête de la plupart. C'est vraiment une espèce de conflit mondial avant l'heure, si on prend l'Occident. Et dans ce conflit mondial participent aussi les Suisses. Et c'est important de dire les Suisses, parce que les Suisses seront dans une première partie les alliés principaux de la France. Dans une partie intermédiaire, je dirais, on va dire, dans la première décennie jusqu'à la bataille de Marignan, en tout cas en 1515, plutôt alliés au duché de Milan et à la papauté. Pour ensuite redevenir, dans la deuxième partie, la guerre d'Italie se termine au milieu du XVIe siècle, en 1559, à nouveau les alliés de la France. C'est compliqué vraiment de trouver le rôle des Suisses, c'est assez complexe. Les Suisses sont à la fois alliés, toujours un peu alliés de quelqu'un, mais ils mènent aussi un peu leur propre politique expansionniste.
Est-ce qu'on peut parler d'alliés du moment qu'ils sont mercenaires? Parce que quelque part, vu qu'ils ne sont pas en état centralisé, c'est plutôt des gens qui sont à la solde du plus offrant, plus que des alliés.
C'est un peu complexe, c'est-à-dire que... on le verra du moment que... ils sont payés. Alors, on est à une époque où chaque soldat est payé, hein, même les soldats français qui combattent pour le Royaume de France, les Suisses, ils sont plus payés. Parce que, comme on l'a dit, ils jouissent d'une... Les dompteurs des princes, ils jouissent d'une renommée sans père. Donc, du coup, on les paye cher, d'autant plus que... Au contrairement aux Italiens qui sont très riches à ce moment-là, les Suisses ils sont très pauvres. Donc du coup, évidemment, pour eux, le mercenariat, c'est quelque chose d'assez important. Mais je parlerai quand même aussi, c'est pas juste l'argent. Hein. Il y a quand même aussi une certaine, notamment, alliance et il y a aussi le côté diplomatique. Par exemple, au tout début, les cantons gothardistes, ils voient dans l'alliance de la France, dans le soutien militaire de la France, une possibilité pour se faufiler au nord de l'Italie, pour leurs propres avantages, parce qu'avoir une porte vers l'Italie, et les riches marchés du nord de l'Italie, c'est évidemment...
Donc quelque part, si la France arrive à conquérir l'Italie, les Suisses qui ont contribué à la campagne du côté français pourraient, si tout se termine bien, revendiquer le fait de pouvoir contrôler un territoire qui arrive jusqu'au duché de Milan, quelque chose du genre.
Aujourd'hui, c'est toi qui fais un peu du spoiler, c'est-à-dire que c'est un peu ce qui va arriver, finalement. Le Tessin, on peut l'anticiper, finalement, d'un point de vue territorial, sera la conséquence la plus importante de ces guerres pour les Suisses. Et cela s'est fait, et sera notamment reconnu après la bataille de Marignan par les Français, notamment par François Ier qui dit « Ok ».
Mais on va pas en dire plus. On va pas en parler en détail parce qu'avant, je voulais justement vérifier avec toi un peu cette chose que... On entend des fois, on va dire, par les gens qui sont passionnés d'histoire, qu'à un moment donné, dans les guerres d'Italie, il y a eu des batailles où les Suisses combattaient contre les Suisses.
Oui.
Donc là, par rapport à ce qu'on est en train de dire, qu'ils sont plutôt alliés des Français, comment ça se fait? Ou à quel moment il y a une division au sein de... C'est déjà trop tôt
Pour simplifier... Alors, pour son flipper, on dit que la plupart des cantons, à un moment donné, sont alliés de la France. Mais après, effectivement, vu que la Suisse n'est pas en état, il y avait plusieurs bandes de mercenaires qui s'alliaient de manière privée à un pays, à une puissance militaire plutôt qu'à une autre. Donc, c'est arrivé assez souvent pendant les guerres d'Italie, bien que les Suisses aient toujours essayé de l'éviter, des guerres fratricides. Bien sûr, mais après, il y a, comme je l'ai dit, il y a quand même plus ou moins trois phases dans lesquelles la plupart des cantons suisses sont soit alliés d'un côté, soit alliés de l'autre. Après... Peut-être c'est important de revenir sur une chose qu'on a dit la dernière fois. Il y a peut-être deux Suisses différents à ce moment-là. Donc Berne et tout ce qui gravite autour, donc notamment Fribourg et Soleure qui sont intégrés à l'ancienne confédération après la guerre de Bourgogne, que eux, ils ont plutôt un intérêt d'expansion vers l'actuelle Suisse romande. Donc, du coup, eux, de l'Italie, ils s'en fichent un peu, en gros. Alors que pour les Gothardistes, donc les cantons plus de la Suisse centrale, les guerres d'Italie, c'est un véritable un moment très important pour essayer de percer en Italie et avoir un bout de territoire de l'autre côté des Alpes. Donc avoir véritablement la maîtrise des cols alpins, dans ce cas en particulier de celui du Gothard.
Comme on disait la dernière fois, pour construire des autogrilles 400 ans plus tard.
Alors, ça c'est un peu, alors qu'on a déjà dit un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait un peu un récit, on raconte un peu les faits ou...
On peut mettre une date déjà évoquée, 1494.
Alors, 1494, la France envahit l'Italie grâce aussi à l'aide militaire des Suisses qui sont les protagonistes de plusieurs des épisodes les plus sanglants, notamment contre les Vénitiens et les Milanais à Fournoux, dans la région de Parme, lorsque Charles VIII rentre en direction de la France. Il y a certains États italiens qui s'allient et qui essayent de se confronter au roi de France et à son armée, qui était une des plus modernes. Il faut dire que les Français, ils arrivent avec... Les guerres d'Italie marquent aussi un peu, d'un point de vue militaire, le passage entre la guerre médiévale et la guerre moderne.
Qui est marquée par les premières armes à feu et...
Alors évidemment, l'utilisation plus massive des armes à feu et, je dirais, le soldat remplace un peu le chevalier. Si on regarde les effectifs effectivement des armées déployées en Italie à cette époque-là, pensons aux Suisses, effectivement, c'est surtout des soldats dans
des
le sens
que
des fantassins, donc pas forcément des nobles, des gens qui se battent à pied. C'est vraiment ce qui caractérise beaucoup l'époque.
J'ai envie de dire une forme de prolétarisation de.
Oui, alors ça, là, tu peux le dire dans ce cas-là. Bien sûr. Là, effectivement, oui.
Du coup, il y a ce succès.
Je ne sais pas. Les Français, la conséquence de la première expédition en Italie, c'est surtout qu'on se rend compte que l'Italie, entre guillemets, est faible et désunie et extrêmement riche. Donc du coup, tous les ingrédients pour une guerre de conquête et de pillage sont réunis. T'es d'accord? Donc du coup, les Suisses, si on revient aux Suisses, parce que... Parler des guerres d'Italie, il nous faudrait peut-être une dizaine d'épisodes si on le regarde un peu de tous les côtés. Les Suisses, ils sont au début alliés des Français. Après, Charles VIII quitte la péninsule en octobre 1495. On parlait de soldes. Sont réglés entièrement les salaires des Suisses. Donc, il y a passablement deux cantons, notamment Uri-Jivitz et Lucerne, qui rejoignent le camp italien. Une partie d'entre eux, d'ailleurs, en se retirant dans leur terre d'origine, ils occupent une grande partie du Tessin actuel. Et, on va dire, dans la première décennie du XVIe siècle, donc là, on est encore à la première partie des guerres d'Italie, le pape Jules II, le pape guerrier, essaye véritablement de former une grande coalition formée par Milan, par les États pontificaux, par l'Empire, par l'Espagne, par l'Angleterre, une coalition contre les Français. Et du coup, voilà, je vais dire, il y a plusieurs épisodes, la trahison de Novare, mais on va dire, à ce moment-là, les Suisses sont, choisis par le pape comme leur protecteur. Ça devient un peu... Alors, il y a un détachement envers la France. Par exemple, je te prends quelques vers de quelques poètes à la cour de Louis XII, parce qu'après, Louis XII, il monte au pouvoir devient le nouveau roi de France à la fin du 15e siècle, des vachers hongrois pleins d'avarice et d'orgueil, qui avaient pillé Milan sans droit et sans raison. Donc du coup, lorsque en 1509, l'alliance avec la France, donc, le contrat d'alliance avec la France, arrive à son délai ultime, voilà, il faut le renouveler. Bah, les Suisses, ils ne le renouvellent pas, et il se trouve presque la totalité des cantons, non, je dirais presque la totalité à ce moment-là, comme les protecteurs de Milan et les défenseurs de l'Église. Donc au nord de l'Italie, commence à jouer, c'est plus vraiment que des mercenaires. Oui, c'est difficile, c'est des mercenaires, c'est une grande puissance militaire, dirigée un peu par la papauté et par le duc de Milan, mais qui a quand même une certaine autonomie. Là, il rentre vraiment un peu dans l'échiquier géopolitique, je dirais.
Puis pour les papes, c'est intéressant de faire appel aux Suisses qui sont considérés un peu des troupes d'élite à cette époque-là.
Oui.
Donc c'est un peu avoir le meilleur service de sécurité
bien sûr,
du Moyen-Âge.
Bien sûr, bien sûr. D'autant plus que les Suisses, après la première expédition à côté des rois de France, ils étaient mal payés, ils étaient un peu utilisés, un peu comme de la chair à canon. Le roi de France, il se rend compte qu'il y a d'autres infanteries à disposition en Europe, notamment les fameux lansquenets, les lanzichenecchi, ça te dit pas quelque chose, qui était l'équivalent des Suisses, mais alémanique, allemand. Donc, du coup, voilà, à ce moment-là, les Suisses sont plutôt installés au nord de l'Italie, en protection du duché de Milan et comme bras armés de la papauté.
Vu qu'il y a encore les gardes suisses au Vatican, un peu l'histoire qu'on raconte aux enfants, mais souvent on y croit encore qu'on est adulte, donc pour la répéter.
Non, on y croit encore, c'est une réalité historique.
Non, c'est une réalité, mais la raison est que, donc je l'ai dit, après on verra
oui.
De la corriger, c'est que le pape fait toujours appel aux gardes suisses, parce que dans une bataille du Moyen-Âge, tous les autres sont partis, les Suisses sont restés les seuls avec le pape pour le défendre. Donc, le pape pour...
Ah ouais, c'est vrai, on raconte ça, ouais, qu'il y a eu une bataille.
Moi, c'est la version que j'ai.
Je
te dis la fin, c'est que justement, le pape, devant la loyauté des Suisses, aurait dit, maintenant, pour l'éternité, je veux avoir des Suisses, parce que c'est les seuls qui sont... Ils ont su rester fidèles au pape, malgré qu'ils soient mercenaires et qu'ils auraient pu partir. Donc, quelque part, ça renforce un peu ce mythe du Suisse ou du guerrier suisse, que bien qu'ils soient mercenaires, avec le pape, il y a une alliance pratiquement sacrée qui fait qu'ils ne partent pas du champ de bataille alors qu'ils seraient presque en minorité numérique, restent fidèles à la papauté et quelque part arrive à la protéger, pour le reste de l'éternité, le pape veut avoir des Suisses. Maintenant, c'est un peu un récit, je sais pas, de bar ou de cours de récréation, comme ça, mais je sais qu'il est encore un peu ancré comme récit, aussi pour expliquer une forme de loyauté, non ?
Oui.
Alors, vu que ça va sur le fait contraire des Suisses avares, de la source qu'on vient de...
Oui, mais bon, voilà, ça c'est du côté français, mais à une époque donnée. Alors, moi, je sais pas, je connais pas
cette bataille, elle n'existe pas.
Alors, cette bataille, elle pourrait représenter plein de batailles, c'est-à-dire que ce qu'on a vu aussi, c'est effectivement le professionnalisme des Suisses, en tant que combattants qui restent et qui se battent jusqu'à la mort, loyaux, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans les Suisses français du XVe siècle, et il le sera aussi à la Révolution française. Les seuls qui restent et se font tuer jusqu'au dernier lors de la prise de la Bastille, c'est les Suisses... qui était engagé par le roi de France. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment eu une bataille, ça pourrait, il pourrait être, alors, je ne sais pas. Alors...
Du coup, le récit d'une bataille où le reste des mercenaires partiraient et les seuls qui restent, c'est les Suisses pour défendre le pape, c'est un peu réarrangé, c'est un peu...
Mais alors, peut-être que cet épisode m'a échappé. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment... Moi, je sais que, je dirais plutôt que les Suisses... À ce moment-là, je pense que la garde suisse est créée en 1506 ou en 1509, je sais pas. On est vraiment plein là-dedans, c'est vraiment dans la période dont on est en train de parler. Et à ce moment-là, les Suisses sont vraiment, deviennent vraiment, après la première partie où ils sont les grands alliés de la France, ils deviennent vraiment le bras armé de ce, que s'appelle, ce qu'on appelle à l'époque la Sainte Ligue. Et il y a surtout ce pape Jules II, qui lui octroie une confiance totale et il voit dans les Suisses vraiment son... vu que l'Italie est complètement fragmentée et dans un état géopolitique assez catastrophique, il voit dans les Suisses une puissance qui peut les aider pour contrer les barbares, ce que les intellectuels de la Renaissance appellent les barbares envahisseurs, c'est-à-dire les Français, même s'il y en a d'autres qui disent, voilà, c'est très bien, on utilise des barbares pour repousser d'autres barbares, parce que les Suisses aussi n'étaient pas non plus...
On épargne aussi le sang...
Voilà, en Italie, on a de l'argent, on paye des mercenaires. Moi, je dirais que peut-être, je ne sais pas, pour me rattacher, vu que tu parlais d'un épisode, l'apogée vraiment militaire des Suisses arrive... Donc, en tant qu'allié de la papauté, arrive en 1513. Alors là, vraiment, la bataille vraiment, où vraiment les Suisses font un exploit extraordinaire, peut-être encore plus que lors des guerres de Bourgogne contre le duc de Bourgogne, c'est que lorsque Louis XII, il redescend encore une fois en Italie pour prendre le duché de Milan. Les Suisses font le bloc à Novare. Donc, Louis XII est à environ à sa solde 12 000 combattants, dont la moitié sont des fantassins allemands, les fameux Lansquenets. Et... Alors qu'il a tous les plus grands généraux de l'époque, Trivulz, La Trémoille, Robert de Dramart.
C'est un peu le PSG, avec Messi, si, Mbappé,
voilà.
Neymar.
Et alors, c'est le PSG avec, je dirais, le PSG avec une trentaine de canons en plus.
Voilà.
Et de l'autre côté, il y a 8000 fantassins helvétiques. Vraiment tous provenant du territoire de la Confédération. Donc, Louis XII, il arrive très confiant en Italie pour prendre effectivement le duché de Milan, parce que là, il n'y avait pas... Je pense que le duc de Milan, en ce moment, c'était un enfant, c'était vraiment un fantoccio, comme on dirait, un peu dans les mains politiques de la papauté et protégé par les Suisses. À ce moment-là, on peut dire que Milan est suisse. Ce moment-là, Milan est un protectorat suisse. Il arrive, alors, on va dire, on est à 12, on va dire, contre 8000, donc quand même, les Français sont en supériorité numérique. Ils s'organisent, ils attendent. Les Suisses, alors, selon les chroniques contemporaines, se lancent à l'offensive sans aucune véritable stratégie. Donc, il fonce comme on aurait en grand désordre, tels des abeilles en furie. Et il se lance parce que voilà, les Suisses, ils n'avaient pas d'artillerie. Donc l'arme qu'ils craignaient le plus, c'était les artilleries. Ils jouent un peu, ils font une espèce de contre-attaque. Ils n'attendent pas du tout, complètement de la désorganisation totale. Ils se lancent contre l'ennemi, qu'il n'arrive pas encore à affûter ses pièces d'artillerie, hein. Comme des malades, ils engagent le combat et ils arrivent à encercler l'ennemi, ils prennent en tenaille les Lansquenets, c'est un peu Suisse-Allemagne, hein, si on veut le voir comme forme de match de foot, comme on dit. Et c'est ton combat, c'est une victoire sans appel. Il y a, il me semble, alors selon les chroniques de l'époque, les historiens estiment 6 000 tués du côté français, donc la moitié. C'est énorme, hein, et du côté suisse, à l'auteur d'une millier. Donc 601 pour la Suisse sur ce coup-là.
Pas mal.
Et c'est là, là, c'est vraiment, là on est vraiment à l'apogée militaire. Parce que là, ils sont plus des dompteurs des princes, mais ils deviennent des faiseurs de rois. Hein, ils gagnent plus contre un duc. Là, ils ont véritablement gagné contre l'armée française. Et là, c'est vraiment...
Ça, on le rappelle, c'est l'efficacité du carré suisse qui montre encore une efficacité devant les canons.
Là, c'est une charge rapide qui prend par surprise l'adversaire qui ne s'attendait peut-être pas à une attaque frontale et qui, effectivement, les Suisses, ils étaient extrêmement forts en corps à corps. En corps à corps, à ce moment-là, ils étaient certainement l'infanterie, les meilleures infanteries du monde, comme il disait Machiavelli.
Mais là, on voit encore aujourd'hui avec la lutte suisse qui a une certaine tradition.
Bah, on peut, alors, bien sûr, bien sûr.
Mais c'est là où le drapeau suisse est devenu officiel. On avait un peu oublié le drapeau.
Alors, ça fait tellement de temps qu'on fait ces émissions qu'on parle. Alors, le drapeau suisse en tant que drapeau de ralliement militaire, rappelons-le, les drapeaux, ils ont vraiment une fonction militaire, hein, pour les soldats, pour se repérer. Ouais. Il apparaît dans une des batailles dont on a parlé lors de un des premiers épisodes, dans la bataille de Laupen en 1339. À ce moment-là, il faut s'imaginer une équipe suisse, une armée des Suisses très coloré, avec beaucoup de pennants, avec beaucoup de drapeaux, avec chacun avec les insignes cantonaux, des cantons. Alors, je ne sais pas si on voit dans les chroniques de l'époque, vraiment à ce moment, mais en tout cas, oui, la croix suisse est utilisée en tant que signe de ralliement.
Donc, en 1512, militaire. Cette croix suisse, elle est déjà un symbole.
Alors, je sais qu'elle est vraiment attestée pour la première fois déjà au XIVe siècle et a une fonction vraiment militaire. Maintenant, est-ce que ça semblait logique, la bataille de Novare?
Ce symbole a une continuation.
Oui, alors le symbole de l'or, si on veut parler du drapeau, alors, bien sûr, le drapeau était un symbole militaire des Suisses, carré. Alors après, quelqu'un dit que c'est un carré notamment en hommage à la formation militaire, notamment le carré suisse, je ne sais pas, il y en a d'autres qui disent que ça vient plutôt du Vatican, bref. Je ne sais pas, c'est difficile à trancher sur la question.
Il y a un peu de spéculation là-dessus.
Mais on a décidé bien plus tardivement, parce que c'est vraiment au moment de la constitution de l'État fédéral au 19e siècle, après de l'adopter en tant que véritable symbole
Ah ok, donc ça vient national. Plus tard, le fait...
Le fait qu'elle est vraiment... On choisit le drapeau comme symbole de la Suisse, alors ça c'est... Alors, et tous les drapeaux, les drapeaux européens, c'est vraiment les drapeaux des États-nations. Ça, c'est quelque chose de très 19e, très napoléonien. Le tricolore de la plupart des États européens s'est inspiré du tricolore français. Et c'est vraiment une conséquence vraiment des guerres napoléoniennes.
Okay, du coup, on ferme la parenthèse, oui. Mais quand même, on remarquera que... au moment de la prise de décision d'un drapeau pour l'État-nation suisse, on va récupérer un symbole militaire. Et là, je ferme la parenthèse pour retourner en 1512 sur le terrain de bataille de Novare.
Et là, à Novare, c'est vraiment... Alors, c'est une bataille qui est... Alors, des guerres d'Italie, c'est certainement la victoire la plus éclatante des Suisses. Personne se rappelle de la bataille de Novare aussi, parce que d'ici peu, on va dire, il y aura la revanche de Marignan quelques années après. la France, il y a un passage de pouvoir, ce sera François Ier, couronné en 1515, qui, là, du coup, la bataille de Marignan, dont on parlera dans un instant, ou la prochaine fois, je ne sais pas où on en est au niveau du timing.
On va arriver à la prochaine fois pour Marignan, on va laisser la prochaine fois. Ce qui m'intéresse peut-être de finir aujourd'hui, c'est de... Voilà, il y a un franc ouvert en Italie, on a vu, avec des changements entre la France et puis à la solde de la papauté, avec un franc succès à Novare pour défendre un peu un territoire qui est presque conquis avec le duché de Milan. Est-ce qu'il y a des sources par rapport à, on va dire, comment ces victoires sont prises en Suisse? Dans le sens, est-ce que ça renforce un sentiment d'appartenance? Est-ce que c'est au contraire, ça crée des divergences?
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, les deux. Je pense les deux. Je pense que les victoires du début du XVIe siècle en Italie, ils exaltent certainement une certaine expansionnisme. Je pense qu'il y en a qui voyaient même la possibilité, peut-être d'accéder à la Méditerranée. Jusqu'à présent, les Suisses sont encore vaincus. Je veux dire, au niveau européen, là, on est vraiment... Donc, il y a certainement, surtout du côté d'un personnage dont on n'a pas encore assez parlé, Mathieu Schiner. Alors, rappelons-le que le chef de l'armée suisse, on va dire l'état-major, si on peut dire comme ça, de cette... force de fantassin, était un évêque.
De là, l'envie d'être avec la papauté.
Bien sûr. Mathieu Schiner était quelqu'un qui aurait pu devenir pape et qui avait des intérêts diplomatiques très forts, très noués avec Rome. Et donc, du coup, il y avait certainement, pour certains, les guerres italiennes, au début, c'était vraiment une occasion, peut-être un mirage de conquête d'une partie du nord de l'Italie. Bon, voilà, c'est plus ou moins réussi. Ils ont pris le destin. Mais ça aurait pu aller plus loin, jusque-là, si on s'arrête là, à ce moment-là. Après, de l'autre côté, il y avait énormément de voix... Et politique, il y avait des gens qui voyaient les guerres d'Italie comme une guerre fratricide, étant donné qu'on a vu parfois les Suisses devaient se battre contre, il y avait des cantons qui se faisaient la guerre entre eux, ils se sentaient aussi un peu instrumentalisés par les autres puissances. Et surtout, là, on le verra, la bataille de Novare, c'est une grande exploit militaire. Les Suisses, ils deviennent, d'une certaine manière, un peu l'instrument de la papauté qui protège Milan. Mais est-ce que la Suisse avait les moyens diplomatiques pour pouvoir vraiment concurrencer avec les grands États monarchiques de l'époque? Et là, on l'a dit, la Suisse n'était pas véritablement un État. Il y avait beaucoup de cantons qui avaient une politique différente. On a dit Berne, ils n'étaient pas très intéressés. Alors, les gothardistes, ils misaient beaucoup sur le contrôle du Tessin, du duché de Milan. Donc, cette désunion, on va dire, cette fragmentation politique à l'intérieur de la Suisse, et les limites aussi de la diplomatie suisse de l'époque montreront bientôt les limites, finalement. Et ils se trouveront bientôt un peu dans une sorte d'isolement politique, surtout à la mort de Jules II. Donc c'est le pape guerrier qui les avait particulièrement galvanisés, exaltés, en tant que notamment protecteur de l'Église.
Très bien, je pense que c'est un excellent final pour cet épisode. Comme ça, on verra justement la débâcle,
En tout cas, il y aura une revanche de cette bataille de Novare qui fut un grand exploit. Il y aura une revanche quelques années après. Ça, c'est certainement l'épisode le plus connu.
Et puis, on verra justement comment cette manière de un peu fragmentaire de communiquer entre Suisses, et peut-être une absence de savoir-faire aussi diplomatique ou politique va amener une séparation des forces et voilà.
Oui.
Alors, ben, merci pour nous avoir écoutés.
Mais alors, merci à toi et merci à.
Et puis, on se voit bientôt pour le prochain épisode de Suisse,
oui.
Une phylogénèse.